Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever parfois très tôt le matin, à enfiler nos baskets pour affronter le froid, la fatigue et l'effort? Est-ce seulement une question d'apparence et de bonne santé? Ou y a-t-il derrière ce geste quelque chose de plus profond, comme une manière de se mesurer à soi-même, de se transformer, peut-être même de se découvrir? Le philosophe Jean-Luc Marion, de l'Académie française, publie « La raison du sport », un essai passionnant et inattendu, lui qui est connu pour ses ouvrages exigeants sur la métaphysique. Il s'attaque ici à une expérience universelle, courir, participer, pour tomber parfois et recommencer. Dans ce livre, il montre que le sport n'est pas seulement une performance ou un loisir, c'est une épreuve volontaire de soi et une manière d'habiter son corps autrement. Jean-Luc Marion, bonjour, je suis ravie de vous recevoir ici.
Merci.
Alors, vous dites en préambule de ce livre que tout le monde ne peut pas écrire et faire un livre sur le sport. Il faut, selon vous, réunir trois conditions que vous remplissez, Jean-Luc Marion. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles?
La première chose, c'est qu'il faut l'avoir pratiqué. Et pratiquer, ce n'est pas le pratiquer en dilettante, c'est le pratiquer sérieusement. Donc moi, j'ai fait de la course à pied quand j'étais adolescent, dans un grand club, c'était le Stade français, avec un entraîneur exigeant, qui ne nous pardonnait rien, mais qui nous faisait faire des progrès. Et donc, ça a été une expérience marquante pour moi pendant plusieurs années. J'ai dû renoncer à cela pour commencer à faire des études sérieuses. Et donc, j'ai fait l'école normale et l'agrégation de philosophie. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Et j'ai repris après, en faisant de la course de plus longue distance, en particulier de la course sur route. Même quand j'étais professeur à la Sorbonne, je continuais à courir. Alors, je m'entraînais moins, évidemment. J'avais pris de l'âge. Il n'était plus question de grandes performances, mais l'expérience a continué jusqu'à ce que des ennuis de cardiaque m'obligent à renoncer définitivement et, à mon grand regret, à l'expérience sportive. Alors, pour faire du sport, pour parler du sport, il faut aussi en connaître l'histoire.
Donc ça, c'est la deuxième condition.
Oui. Rien de plus désolant que des sportifs qui disent qu'ils ne connaissent absolument pas l'histoire du cyclisme ou l'histoire de l'athlétisme, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas dans quelle tradition ils entrent, et ce phénomène de tradition, d'histoire racontée, c'est en fait la logique et la substance même de la pratique sportive. Alors ça, bon, les journalistes spécialisés sont en principe excellents dans ce domaine, quoi qu'il y ait du flou, mais ils n'ont pas toujours une expérience réelle, de moins en moins d'ailleurs, de la pratique sportive. Et puis surtout, il leur manque souvent, pas toujours, souvent la troisième condition, à savoir d'avoir quelques concepts. Parce qu'une expérience ne fait expérimenter pas grand-chose si on ne sait pas mettre des mots, c'est-à-dire au bout du compte des concepts, dans ce qui se passe. Et c'est là que la philosophie, mais à mes yeux tout aussi bien la théologie, dispose de concepts qui sont très éclairants pour parler du sport. L'exemple, nous y reviendrons, c'est la distinction entre le corps et la chair, par exemple. Bon, ça, c'est la philosophie pure. Et évidemment, quand on n'a pas cette distinction, on parle de l'effort d'une manière floue. Et donc, on manque l'essentiel. Donc, c'est pourquoi, curieusement, il y a une grande littérature sportive, elle est abondante, mais elle est souvent très décevante, insignifiante. C'est-à-dire, elle n'atteint pas la signification de ce dont elle parle.
Donc, pour résumer, faire du sport, connaître l'histoire du sport et savoir le conceptualiser. Et à partir de ces trois conditions, vous développez dans ce livre une réflexion sur ce que peut le sport, sur ce qu'il nous fait à nous-mêmes. Et vous dites qu'il nous permet notamment d'éprouver notre corps, de le ressentir. Alors, il y a d'autres expériences qui nous permettent de ressentir notre corps, la douleur, la sexualité, par exemple. Qu'est-ce qui va distinguer le sport de ces autres moments-là que je viens de citer, douleur, sexualité, où l'on ressent aussi intensément notre corps?
Plusieurs choses. La première, c'est que les deux exemples que vous donnez, il y en a un quatrième dont je vais dire un mot, les deux exemples que vous donnez sont des exemples qui ne dépendent pas entièrement de nous, de moi. Ça dépend d'autrui. Donc, dans ce que j'appelle le phénomène érotique, évidemment, puisqu'il n'y a pas, en fait, véritablement d'auto-érotisme, contrairement à ce qu'on dit, puisque même dans, il faut que l'imaginaire intervienne. Donc il faut qu'autrui intervienne, et puis ça ne marche pas à tous les coups. Alors il y a la question de la douleur. Mais la douleur, c'est pas nécessairement, d'ailleurs, elle ne vient pas nécessairement de l'extérieur. Parce que quand j'ai une souffrance corporelle, c'est pas nécessairement parce que je suis agressé par le monde extérieur. Ça peut être simplement, comme dit Descartes, la faim et la soif sont les premières douleurs. Mmh. Elles sont inévitables. C'est des douleurs créées par l'absence. Donc on pourrait dire, là, la question d'autrui ne joue pas. C'est involontaire, par définition. La douleur, c'est ce que je ne peux pas fuir. Alors, dans le sport, ce qui est neuf, et c'est pareil pour la quatrième
expérience,
qui est celle, disons, de la vie spirituelle, de la prière, c'est que c'est volontaire. C'est-à-dire, on décide volontairement, comme disent les sportifs, de se faire mal. C'est-à-dire, quand on commence une course, quand on va à une séance d'entraînement, on sait qu'on va se faire mal. Et donc, c'est une souffrance volontaire. Et pourtant, c'est pas du masochisme. D'abord parce que cette souffrance est la condition aussi d'un certain plaisir, difficile à expliquer. Ce mélange de souffrance et de plaisir renvoie au passage du corps en bonne santé, qui est le corps absent, celui qu'on oublie complètement, qui vous obéit sans qu'on ait même à lui donner des ordres. Le corps qui d'ailleurs est conçu effectivement comme une machine par la médecine. Corps-machine qui est une invention moderne, il faut bien comprendre ça. C'est le corps réduit à la mécanique. Donc le corps normal est absent.
On l'oublie au quotidien, on l'oublie.
Oui, et dans l'exercice sportif, il se passe une chose étrange, c'est qu'au lieu que le corps soit un double matériel, un corps étendu, comme disait Descartes.
Qui s'oppose à
la pensée, qui elle-même est supposée être dans un ciel immatériel. Il se passe que, d'un seul coup, ce corps se fait sentir, je le ressens, et je le ressens pas comme un autre, je le ressens comme moi. À ce moment-là, il y a l'inverse de l'anesthésie. L'anesthésie consiste à se séparer complètement de votre corps étendu. Dans le sport, il n'y a pas d'anesthésie, il y a une esthésie, une aesthésis, une esthétique, ce sont les différentes traductions possibles, le fait que le sensible devient moi. Cette aesthésis, en phénoménologie, on le doit à Husserl et à ceux qui ont suivi dans cette direction, nous passons du corps à la chair. La chair, Leib, c'est ce que l'on éprouve comme vivant.
Je reviens sur ce mot chair parce que vous l'employez énormément dans ce livre. Vous dites le sport est l'épreuve de la chair volontaire. Mon corps devient ma chair quand je fais du sport. Voilà, ce mot, il revient très souvent. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot-là, chair? Enfin, vous l'avez déjà un petit peu expliqué.
Mais c'est assez difficile à expliquer puisque c'est une affaire de saisie, d'expérience. Dans ma chair, d'abord, ce que je croyais corporel et à distance devient, au moins partiellement et pour un temps, absolument moi, ma douleur et mon plaisir coïncident, ce qui veut dire que je suis affecté par moi-même complètement, et que donc je vais dépendre de ce que je pense sans me le représenter. De ce que je pense sans pouvoir le décrire et le représenter. Je suis dans un état second, cet état second, je l'éprouve très lucidement, dans la course, dans l'effort, même au maximum de l'effort, vous êtes dans un maximum de conscience. Vous savez très bien ce qui se passe, vous le faites, ça se fait en vous, mais vous ne pouvez pas, en quelque manière, le décrire, l'analyser, etc. Et quand vous allez franchir la ligne d'arrivée, ça va très vite disparaître. C'est comme le plaisir érotique, c'est un phénomène saturé, comme dans mon langage, mais c'est en même temps un phénomène qui va disparaître tout de suite et qui est un phénomène raturé. Et alors, il y a au moins une assonance entre Leib, la chair, en allemand, et Leben, Erleben, Erlebnis, c'est-à-dire éprouver, éprouver ce qu'on vit. Et donc, c'est le passage à une unité de soi largement supérieure, rare, et qui, bien entendu, doit se retrouver dans d'autres expériences. Moi, je pense que la mort, qui après tout est une chose à laquelle personne n'échappe, même le ressuscité, est une expérience de ce type, sans doute. Parce que quand on dit que celui qui va mourir voit défiler sa vie totale dans un instant avec une lucidité extraordinaire, eh bien, c'est sans doute un cas de ce que j'appelle la prise de chair.
Quand on demande parfois aux sportifs pourquoi ils font du sport, il y a une expression qui revient souvent. Ils disent le sport, ça permet un dépassement de moi-même. Cette idée de dépassement de soi-même, vous y revenez, vous l'évoquez dans votre livre, mais vous préférez une autre expression, l'atteinte de soi. Qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre, dépassement de soi et atteinte de soi?
L'épassement de soi n'aurait aucun intérêt s'il ne permettait pas de s'atteindre soi-même. Mmh. Et donc, une expérience fondatrice pour moi dans la pratique du sport de compétition, c'était évidemment de temps en temps de gagner, ce qui ne m'est pas arrivé très souvent, il faut être honnête, mais surtout, c'était l'expérience qui m'est arrivée plusieurs fois, heureusement, qui est d'améliorer son record personnel. C'est-à-dire quand vous faites mieux que vous-même, vous êtes entraîné longtemps pour améliorer votre temps. Et plus vous entraînez, plus vous avez l'impression que c'est un Everest que vous construisez devant vous. Psychologiquement, vous créez une limite infranchissable. Et puis un jour, pourquoi ce jour-là? Pourquoi un autre? Vous ne le savez pas. J'ose pas dire presque sans effort, certes pas sans souffrance, mais en un sens, avec un sentiment de facilité, vous mettez 2 secondes, 3 secondes à votre record personnel. Et à ce moment-là, vous êtes non seulement content de vous, mais vous avez fait une expérience inouïe que la vie quotidienne ne nous accorde que très rarement, à savoir que la limite entre le possible et l'impossible s'écroule.
Et je voulais revenir aussi sur une autre expression sur laquelle vous revenez, c'est la devise des Jeux Olympiques, qu'on aurait attribuée à Pierre de Coubertin. L'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Et vous proposez une lecture assez intéressante de cette devise, parce qu'elle en dit long sur notre rapport de soi à soi et pas de soi à autrui.
Alors là, il faut préciser.
Ouais.
Il y a 2 devises olympiques qui ont été données à Coubertin, qui ne les a pas inventées, par 2 ecclésiastiques. C'est assez curieux. Il y a celle que vous venez de dire, l'important c'est de participer, un archevêque épiscopalien de Philadelphie, qui l'avait dit à des athlètes. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a une communauté, une fraternité dans le sport, etc. Très bien. C'est souvent repris comme thème par les papes quand il y a des Jeux Olympiques qui font un message sportif. Je suis d'accord, c'est très bien. Mais il y a une autre définition qui est arrivée avant, qui vient d'un autre ecclésiastique, qui était le père Didon, dominicain, avant la fin du 19e, qui est la formule plus haut, plus fort, plus vite. Alors celle-là, c'est une autre définition, parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'un vainqueur. Donc là, c'est une définition agonistique. Et alors, il y a une contradiction entre les deux. Alors, cette contradiction, elle est évidemment ce qui traverse tout le mouvement sportif. Parce que le sport-spectacle, qui est évidemment la machine économique du sport, qui transforme le sport en activité économique, politique, pour ainsi dire, repose sur la définition agonistique. Mais le sport comme expérience de soi, où les gens qui vont courir le marathon de Paris dans quelques jours ne le font pas pour gagner. 50 000 gus qui partent, il n'y aura qu'un vainqueur et on sait à l'avance qui fait partie de la première vague. Et puis voilà, on sait vaguement qui ça va être un Kenyan ou un Éthiopien. Bon. Donc il n'y a pas photo, comme on dit. Mais les gens qui vont courir, ils vont courir selon le principe, l'important c'est de participer. Donc, le sport lui-même est divisé dans ces 2 postulations qui correspondent aux 2 devises olympiques. Et la question est de savoir comment et jusqu'à quel moment les différents sports, car tous n'ont pas le même destin, vont pouvoir garder le lien entre les 2 postulations du sport. Hein ? La postulation agonistique, il n'y en a qu'un qui gagne, et la postulation solidaire, dans lequel tout le monde entraîne tout le monde pour que chacun dépasse lui-même. Mmh. Et c'est pas sûr que tous les sports y arrivent, hein.
Vous vous intéressez à un sport en particulier, qui est celui de la course à pied, parce qu'il réunit voilà, ces deux devises, ces deux définitions. Et vous vous intéressez à un sportif, un coureur en particulier, Michel Jazy. Est-ce que vous pourriez rappeler très brièvement qui il était pour les auditeurs qui ne...
Michel Jazy,
oui.
Qui est mort l'année dernière et qui était devenu un ami.
Un coureur de fond, de demi-fond.
Oui, qui courait du 800 au 5000. Mm. Il correspondait à la renaissance de l'athlétisme français dans la fin des années 50 et dans les années 60. Il a été, il a commencé en ramant comme tout le monde, et puis il a commencé à gagner beaucoup de courses, mais dans des temps 3,42, grand record de France avec Michel Bernard dans les années 60. Donc c'était un très bon coureur au niveau national, bon coureur au niveau européen, mais qui n'avait pas atteint le niveau international véritable. Et il a éclaté aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, en terminant deuxième derrière l'inatteignable, et d'ailleurs qui n'a jamais été battu, Herb Elliott, sur 1500 mètres. Et là, il a fait 3,38 et des poussières, et il est devenu quasiment le meilleur européen sur 1500 mètres. Alors, il a été longtemps, il a commencé à ce moment-là à battre des records du monde, du 2000, du 3000, du 2 miles, du 3 miles, et il a été champion d'Europe du 1500 mètres. Mm-hmm. Donc, en 64, Jeux Olympiques de Tokyo, il a décidé de courir le 5000 mètres, parce qu'il avait commencé à faire du 5000, il a eu tort. Et alors qu'on pensait parfaitement capable de gagner la finale, il s'est écroulé dans la dernière ligne droite et il a terminé quatrième.
C'est un échec. Et c'est ça qui fait de lui un champion, vous dites.
Alors, non.
Par cet échec, en quelque sorte.
Non, par la manière dont il a surmonté l'échec.
Voilà, c'est
alors,
ça.
Alors, c'était une énorme déception pour lui et pour tout le monde. Et en 65-66, il a remonté la pente de manière sublime. Et il y a eu, en juin 65... Il a battu le record du monde du mile, il a battu, rebattu ses records, il a gagné tout. Il a eu une période extraordinaire. Ce mois de juin a été sublime. Et cette courbe par laquelle il est monté haut, il est descendu très bas et est remonté plus haut, c'est admirable. Et puis en plus, c'était un très beau coureur, un garçon intelligent, enfin, qui avait beaucoup de qualités. Moi, j'avais côtoyé de loin, à l'époque où je courais sérieusement. Et puis après, j'ai eu l'occasion, précisément après mon élection à l'Académie, d'entrer en contact avec lui. Nous avons parlé, je l'ai rencontré souvent, plusieurs fois. C'était quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui était très, très gentil, très aimable. Quand je disais que j'admirais beaucoup ce qu'il avait fait, un jour il m'a répondu « Vous savez, ce que vous avez fait, c'est très bien aussi. »
Ouais, c'est vrai. C'est charmant. Dans un autre genre. En tout cas, voilà, c'est ça qui fait l'étoffe d'un champion, c'est celui qui est capable de survivre à ses échecs et qui a souvent vaincu, vous dites.
Oui.
Alors, on vous connaît, Jean-Luc Marion, pour des essais philosophiques, réputés pour être un peu moins accessibles au grand public. Je crois que ça faisait longtemps que vous vouliez faire un livre sur ce sujet, sur le sport. Est-ce que vous avez pris du plaisir à l'écrire, ce livre ? Parce que le style est assez singulier. On y reviendra juste après, mais racontez-nous un peu cette expérience d'écriture.
Bon, j'ai écrit ce livre avec plaisir, évidemment. En fait, pour moi, c'est un livre théorique. Parce que, comme je vous le disais, il y a un rapport entre la prise de chair volontaire dans le sport et le phénomène érotique. Donc, mon livre, Le phénomène érotique, a en arrière-fond la question du sport. Parce qu'il y a le même rapport entre le corps et la chair. Et puis d'autre part, dans mon principal livre théologique, qui s'appelait d'ailleurs La Révélation, je commence par définir le concept de révélation. Alors il y a un concept de révélation théologique, mais je parle d'abord de la révélation avec un petit r. Et l'exemple que je prends, c'est l'exemple du sport. Lorsque j'arrive à faire un geste sportif réussi, c'est une révélation. C'est une révélation pour moi, je me révèle à moi-même des possibilités que j'ignorais, et je transforme mon rapport au monde. Le monde me devient, si je puis dire, ouvert et non pas clos par des limites, les limites de mon incapacité à le gérer. Et c'est une révélation parce que ça transforme mon rapport social, J'entre dans la communauté des gens qui savent faire ça. Et donc, ça a une fonction de révélation. Et d'ailleurs, les sportifs emploient ce langage. Je cite le sprinter Lemaître qui a dit « L'athlé m'a révélé à moi-même ». Ce qui est absolument vrai. Vous êtes un gars normal, puis d'un seul coup, vous êtes le premier européen, si je puis dire blanc, hein, à passer sous les 10 secondes. Personne n'avait fait avant lui. Et donc, il est 3 ou 4 fois champion d'Europe, médaillé olympique, etc. Bon, puis maintenant, c'est fini. Mais il existera toujours pour ça.
Oui, c'est une expérience inoubliable. Oui.
Donc, la notion de révélation est aussi une notion sportive.
Alors, on va entendre un petit extrait du livre, justement. D'abord, je vous laisse présenter de quoi il parle avant qu'on l'entende.
Oui. Donc, c'est une course qui résume mes courses. J'en ai choisi une où j'ai gagné, naturellement. Mais c'est une espèce de synthèse. Et je voulais montrer que le coureur, quand il court d'abord dans sa tête. Il court en tête s'il peut, mais il court surtout dans sa tête. C'est-à-dire c'est toute sa vie sportive qui est résumé et qui défile dans sa tête.
Combien de secondes vais-je pouvoir tenir sans exploser en vol, exploser au sol ? Au fait, il n'y a pas que moi qui dois me faire mal. Où en est-il, mon vainqueur ? Toujours 10 mètres devant ? Oui, oui. Mais tiens, en fait, pas tout à fait. Je le trouve moins loin, peut-être même plus près, à 4 ou 5 foulées. Il m'entend, me sent derrière lui, se retourne, ce qu'il ne faut jamais faire. Perte de temps, aveu de faiblesse. Moi, je dois rester derrière lui. Surtout, ne pas me décaler dans le virage pour lui faire l'extérieur. Je dois me recharger les batteries dans son dos. Calme. Oublier les crampes qui pourraient monter, nier la brûlure dans les poumons, maintenir un souffle vif. Désormais, je vois mieux alentour. J'entends tout. Donc aussi des cris, un peu confus, un peu bêtes. Allez, le stade. Mais je ne suis plus seule. On m'aime. Avec la fatigue, arrive aussi l'énergie de l'esprit qui récupère la souffrance du corps et en jouit.
C'est un style assez haletant, assez sportif, en fait.
Mais oui, c'est pas parce qu'on est philosophe qu'on écrit comme un cochon.
Ah non, j'ai pas dit ça.
Mais vous pourriez le dire, parce que la plupart des philosophes écrivent comme des cochons. Il faut dire les choses comme elles sont.
Ah, c'est vrai, bah, c'est vous qui le
dites. Il y a peu d'exceptions.
C'est vous qui le dites. En tout cas, on comprend qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête d'un coureur quand il est en marche. Alors, on connaît bien sûr les bienfaits de la marche sur le cerveau, de la course aussi. Ça vous est, à vous, déjà, personnellement, arrivé de venir à bout d'une question philosophique en courant? Alors, peut-être pas venir à bout, mais...
Ah bah, il m'est arrivé très souvent, travaillant, écrivant, essayant d'écrire. Puis au bout d'un certain temps, la tension tombe, la tension disparaît, et on voit qu'on est dans une impasse. Alors dans ces cas-là, on prend non pas ses baskets, mais ses chaussures de course, et on va courir au bois. Au bout d'une demi-heure, d'une heure, on repense à toutes ces choses dans l'état. Et d'un seul coup, on trouve... l'argument, la formule qui débloque la page qu'on voulait écrire. Et moi, j'ai trouvé, même souvent, en courant, les titres de mes livres. Et même parfois, les titres des livres de mes amis qui n'arrivaient pas à trouver leurs titres. Pourquoi ? Bah parce que, d'une part, comme quand on court, on augmente le rythme cardiaque. Donc, il y a plus de sang qui passe. Donc, le cerveau est plus irrigué. Donc, il se refait une santé. Et puis, parce qu'il y a un état euphorique, pourrait-on dire, on est plus malin. Et on rentre, on prend une douche, et c'est reparti. Moi, je pense que d'ailleurs, pour faire des livres, il faut une qualité que le sport donne, qui est la résistance. C'est-à-dire rester longtemps concentré à un niveau de performance supérieur à la moyenne. Et ça, le sport vous apprend à le faire.
Ce titre-là, de cet ouvrage, La raison du sport, vous l'avez trouvé en courant, par exemple ?
Non, je ne peux plus courir maintenant.
Ah oui.
Mais je l'ai trouvé comme ça, sans réfléchir. Mon éditeur m'a dit, il faut trouver un titre. Je lui ai dit, La raison du sport. C'est sorti comme ça, puis c'était un bon titre. Parce que ça veut dire, il y a une ou des raisons de faire du sport, et le sport est très raisonnable. C'est un niveau de rationalité qu'on peut atteindre et qui n'est pas le niveau de la rationalité objective, technique, fonctionnelle. Et puis en plus, c'est une rationalité gratuite, quoique parfois on la paie de beaucoup d'efforts. Mais le sport, c'est fait par ceux qui aiment ça. Et c'est pourquoi les gens qui trichent, qui se dopent, qui font du sport pour gagner de l'argent, etc., ne sont jamais des grands. Quand un sportif se dope, il peut faire croire, il veut faire croire au public qu'il fait un exploit et se dépasse lui-même, dépasse les limites, etc. Mais lui sait bien qu'il triche. Donc il enlève tout le plaisir du truc. J'aurais pas voulu être pendant 7 ans dans la tête d'Armstrong à dire qu'il était un héros, américain naturellement, alors qu'il savait très bien qu'il l'était pas. Ou alors il devait se convaincre lui-même qu'il ne trichait pas. Enfin, c'est une situation psychologique à devenir fou, d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus de monde se mettre au sport, et notamment les courses, les 10 km, les semis, les marathons, sont pris d'assaut par les 15-40 ans. Comment vous l'expliquez, vous, avec un point de vue de philosophe, cet engouement ?
Oh ben moi, j'explique très bien. Tous les gens qui arrivent à la crise de la cinquantaine, qui peut arriver entre 30 ans et 60 ans. D'abord, ils veulent montrer qu'ils sont encore des mâles, ou même les femmes, je veux dire, bon, qui sont encore dans le coup. Peut-être un peu impressionner leur entourage, s'impressionner eux-mêmes, mais plus fondamentalement, faire l'expérience de la prise de chair. Comme je dis, nos contemporains pensent ne pas avoir d'âme, ou du moins ont des doutes. Alors ils courent pour voir s'ils en ont une. Et plus ils doutent qu'ils ont une âme, plus ils courent pour essayer de se prouver le contraire. Donc ça s'explique très bien, et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore tous des veaux.
Je pense que c'est la meilleure phrase pour terminer cette interview. Merci beaucoup Jean-Luc Marion. Je rappelle le titre de votre livre « La raison du sport » et c'est aux éditions Grasset, dans toutes les librairies. Merci à vous.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.